gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Toutes et à tous, bienvenue à la causerie en fait, pardon.
T'es pas venu depuis un moment, c'est oui. Pour ça que tu te rappelais plus du nom.
Non, je savais plus comment présenter tout ça. Bref, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu au 102.2 sur Lyon et partout ailleurs sur, sur le net. Et ben c'est la causerie, c'est l'heure du direct, après des mondes continues. Et ce soir à la technique, nous avons Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. Fab.
Salut. Qui n'est pas la technique du coup.
Ah oui, non, il est pas la technique. Il est autour de la table avec un micro devant lui.
Ouais.
Mais moi aussi.
Oui, oh, et vous n'avez pas complexifié tout
et
ça.
Et Jean-Yves de retour dans Bonsoir. L'émission.
Tout à fait.
Je vais continuer juste pour te rappeler que nous avons un blog où vous pouvez retrouver tous les podcasts des émissions, car nous n'avons pas d'hologramme, nous, mais par contre, nous avons des podcasts, donc n'hésitez pas. C'est sur blogs.radiocanu.org/lacauserie. Vous allez sur les blogs des émissions et vous cherchez la causerie, on y est. Ensuite, on a aussi un petit espace sur un réseau social qui s'appelle qui commence par F et qui finit par un K. Mais là, on répond pas trop. Mais par contre, c'est pratique pour retrouver les podcasts. Et sinon, vous pouvez nous écrire à lacauseriecanu@gmail.com, tout attaché en minuscules, et en général on essaie de répondre assez vite, donc n'hésitez pas. Et on va démarrer cette émission avec un sujet, un livre plutôt, que tu voulais présenter, Jean-Yves, un livre qui commence à faire un petit peu de bruit dans les milieux alternaux, comme on dit, voilà, et c'était donc...
Et c'est même pas c'était,
et c'est, pardon.
C'est donc ce soir, je vais vous parler de La Fabrique du Musulman, un essai sur la confessionnalisation et la racialisation de la question sociale. C'est un livre de Nejib Sidi Moussa et c'est aux éditions Libertalia. Il y a un petit format poche qui vous coûtera 8 euros et c'est tip top. Donc voilà, vite fait, pour vous présenter Nejib Sidi Moussa, il est docteur en sciences politiques, il est né en 82 et à Valenciennes. Donc il est du Nord.
Du Nord, ouais.
Du Nord. Un foyer... De travailleurs et de travailleuses,
ouais, c'était un endroit où il y avait il y a eu beaucoup de révoltes, ouais.
Et donc voilà. Donc je vais continuer quand même à vous parler de ce livre. Je vais déjà commencer. Et pour commencer, je vais vous citer une partie de la quatrième de couverture qui présente, je trouve, très bien le sujet du livre. La fixation permanente sur les présumés musulmans, tantôt dépeints comme des menaces à l'ordre public ou des victimes du système, parfois les deux à la fois, s'inscrit complètement dans le réagencement en cours de la société française. Car le vrai, entre guillemets, grand remplacement concerne celui de la figure de l'arabe par celle du musulman, de l'ouvrier immigré par le délinquant radicalisé, du beurre engagé par le binational déchu. Et donc, on continue, et alors le livre, il commence... Pour vous donner le contexte en fait dans lequel il l'a écrit, parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Ce livre en fait, il s'inscrit dans la continuité des interrogations que l'auteur avait en 2005, donc il y a un petit peu plus de 10 ans, quand il était encore jeune marxiste et qui formulait comme ça, donc en janvier 2005, N'est-on pas en train de tout mettre en œuvre pour séparer le prolétariat français d'origine algérienne, à commencer par sa jeunesse, du reste du prolétariat de France ? Et donc, se servir de ce groupe pour faire exploser la classe ouvrière, ses organisations et ses conquêtes. Si l'inquiétude initiale, je continue de vous citer le livre parce que je vais beaucoup faire ça ce soir, ça va être entre mes mots et les siens, mais c'est parce que je me retrouve beaucoup dans ce qu'il dit et qu'il n'y a pas besoin de reformuler ce qu'il dit. Et donc je continue sur si cette inquiétude initiale demeure, les termes du débat ont pour partie changé durant la dernière décennie, essentiellement en raison de l'activité propagandiste des diverses chapelles d'extrême droite combinées à la reconquête de l'espace public par les religions de toute obédience. Face à cette offensive nationaliste et cléricale, certains segments de la gauche ont contribué, à leur échelle, par leur prise de position ou leurs alliances, à mettre l'accent sur les préoccupations identitaires au détriment de la question sociale. Et continuons un petit peu plus loin, dans la France 2017, et sans doute dans les années à venir, chaque individu épris de liberté est ou sera sommé de choisir son camp. Celui des intégristes républicains, entre guillemets, contre celui, entre guillemets, des islamo-gauchistes. Car la nuance n'apparaît plus de mise dans ces affrontements faussés où les enjeux se trouvent souvent réduits à des joutes numériques en 140 caractères ou à un éventail d'émotions limité à 6 images. Donc voilà, hein, c'est un peu les bases du livre. Je pense que c'est suffisamment parlant. Et donc là, ça va être sur 147 pages. C'est court et c'est très riche. Une analyse qui, effectivement, elle est vraiment très riche, détaillée. Il y a toutes les sources, il y a beaucoup de sources. Et que moi, je trouve que c'est courageux parce que, justement, on tombe dans l'un ou l'autre et c'est très bien que des voix dissonantes, justement, de ce binarisme d'extrême droite de toutes sortes ou de gauche de la gauche, ça fait du bien.
Alors, on va juste rappeler que l'auteur, comme tu disais, c'était un jeune marxiste. Depuis, il a un peu évolué vers le libertaire dans sa pensée. Ouais. Et s'est beaucoup rapproché des courants libertaires et anarchistes, d'ailleurs.
Et donc, alors ça commence aussi, enfin, il se présente. Ça, c'est quelque chose de très intéressant et de très important. Il se présente, il nous dit d'où il vient, le milieu familial, social. Et c'est d'ailleurs là où, justement, il commence déjà à interroger ce truc qu'on dit, enfin que certaines personnes disent, je ne l'utilise pas, issu de la colonisation. Parce qu'en fait, il parle de son parcours à lui, de sa famille à lui, dont des membres, dont toute la famille d'ailleurs a quitté l'Algérie parce que, pour des raisons politiques. Et en fait, il dit, ça c'est mon parcours à moi. Et que finalement, mon parcours à moi qui suis issu de la colonisation, comme certains aiment le dire, il n'est pas identique à d'autres en fait. Donc déjà là, ça, justement, je trouve que c'est très intéressant, il remet toujours l'individu au cœur des choses.
Oui, il interroge beaucoup les grands ensembles.
Évidemment. Et je vais vous énumérer un peu de certaines choses dont il parle. Il nous parle de l'état de la gauche, du milieu ouvrier, syndical aussi, du milieu révolutionnaire, il nous parle aussi de la social-démocratie, qui arrive peut-être à certaines limites, des politiques antisociales des gouvernements qui se succèdent et qui finalement se ressemblent quand même beaucoup, malgré qu'ils aient des étiquettes différentes, des reculs politiques et sociaux, vraiment il va en énumérer pas mal, du débat sur l'identité nationale, un boulevard ouvert par Nicolas Sarkozy et Patrick Buisson, qui est un mec d'extrême droite, et là effectivement ça a ouvert un super boulevard à toutes les idées dégueulasses. Et il revient aussi sur l'année 2005, parce que pour lui, en fait, il pose le truc que cette année, pour lui, a été... elle explique en tout cas en partie le marasme en fait, dans lequel on est aujourd'hui, 10 ans plus tard. Il parle de la...
12 ans plus tard.
12 ans, pardon, plus tard. Qu'est-ce qu'il est taquin. Il nous parle de la Constitution européenne et du boulot militant en fait, qui a été fait à cette période-là et qui s'était soldé par un an justement à cette notion de libéral encore plus haute que... de ce libéralisme encore plus développé qu'il ne l'était avant et qui finalement, 3 ans plus tard, il a été ratifié en fait. Et donc on s'en est complètement...
Par le vote du peuple, ce qui est ça qui est terrible, c'est-à-dire que les gens sont allés voter pour le seul candidat qui disait « moi je ratifierai le traité si vous m'élisez ». Donc c'est assez étrange hein, cette période-là, entre 2005 et 2008, enfin 2007, il y a vraiment eu une période très très étrange politiquement.
Hein. C'est ça, et il nous parle aussi, alors en 2005 il y avait aussi les émeutes d'automne, là où aussi c'est intéressant parce que derrière il va apporter des trucs aussi qui il nous parle par exemple de la fascination du comité invisible. hein, et qui...
Ah, l'insurrection qui vient.
Voilà,
ça, ouais.
C'est exactement ça. Ouais. Et pour lui,
les appellistes, quoi.
Bah ouais, et il le dit, en fait, c'est entre misérabilisme et populisme. Et effectivement, enfin, si vous avez l'occasion, et je vous le souhaite vraiment, de lire ce livre, les mots, c'est effectivement ça, quoi. C'est, enfin, c'est juste dégueulasse. Il parle aussi de la loi de février 2005. Je pense que ça va vous rappeler quelque chose qui était, qui portait aussi sur le rôle positif de la présence française, c'est-à-dire le colonialisme. Hein. Et donc, ça a été quand même modifié un an plus tard, mais à partir de ce moment-là, ça a été suivi d'une diffusion beaucoup plus importante, finalement, de travaux portant sur le fait colonial ou issus du champ des études postcoloniales. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'il va amener de la contradiction déjà à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un historien en particulier qui cite... qui était déjà à dire, attention, c'est très intéressant les études postcoloniales, mais à ne n'utiliser plus que ce prisme-là, on enferme des gens dans, bah, déjà dans, colonisés, issus de la colonisation.
Ouais, c'est le fameux paradoxe des générations. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où l'histoire ne peut pas se transmettre, enfin, les blessures de l'histoire peuvent se transmettre,
oui,
par contre, l'histoire ne se transmet pas en un bloc. Et c'est toute la limite entre étudier quelque chose et ensuite aller dire, bah oui, mais en fait, vous souffrez exactement des mêmes choses que vos arrière-arrière-grands-parents. Ce qui n'est pas vrai, en fait, dans les faits. Et donc, du coup, ce mélange-là est assez, peut être assez détonnant, en fait.
Bah oui, et puis ça réduit les possibilités politiques, c'est-à-dire
oui.
qu'on a chaque
et puis ça refait des grands ensembles.
Ah bah évidemment,
c'est ça,
on
le
en
problème.
Revient à ça. Il nous parle aussi de la confusion et effectivement des contresens auxquels on est confronté aujourd'hui et il en cite quelques-uns, je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, d'un pseudo qui sévit sur le net, qui s'appelle le Libre Penseur et qui finalement est un complotiste et qui est complètement en rupture totale avec ce qui est l'héritage de la libre pensée et des Lumières, en fait.
Ouais, tout à fait.
Donc, il participe à cette confusion. Il parle aussi de l'appropriation sans nuance du mot islamophobie par des anticléricaux. Bah, les anticléricaux, on va pas en chercher 15 000, hein, c'est du côté des anars, des libre-penseurs, etc.
Et d'une partie de l'extrême gauche.
Et d'une partie de l'extrême gauche, bah, qui finalement contribue à diaboliser le blasphème. Et qui restreint la liberté d'expression, qui est quand même un petit peu déjà mal au point, on en sait quelque chose à Canu, une mauvaise blague peut vous amener à beaucoup d'emmerdes. Et donc voilà, et il parle aussi de la réintroduction de la race, hein, on l'entend quand même de plus en plus, par cela même qui, je le cite encore, hein, par cela même qui accepte de nos jours d'être désigné comme blanc, et qui en fait, selon lui, améliore absolument en rien la situation des, entre guillemets, racisés, encore ce mot qui est utilisé par ces gens-là, ou des personnes perçues comme non-blanches sur le marché du travail, sur l'immobilier, enfin tout ça, quoi, ça ne change rien du tout à leur vie. Il parle aussi de l'analyse postmoderne, de l'envie d'individus, qui souhaitent plaquer des modèles d'organisation importés de leur lecture anglo-saxonne et qui projettent sur un pays théorique des fantasmes idéologiques qui ne résistent guère à l'examen. Je voulais citer, mais je pense qu'on en a déjà parlé ici, on l'a déjà évoqué quelques fois, et où justement...
Bah, dans une intervention de l'auteur que j'ai lue, il donnait par exemple l'exemple de la mixité dans les couples. Mm-hmm. Il disait par exemple quand on prend quelque chose qui vient du Royaume-Uni ou des États-Unis, oui. C'est complètement difficile d'y plaquer sur une bonne partie de l'Europe et notamment en France, parce qu'en France on a, comme on le disait souvent, il y a 25% de couples dits mixtes, voilà, ce qui n'existe quasiment pas si vous allez en Angleterre où on descend à moins de 5%, et aux États-Unis où le taux est à peu près le même. Et il dit en fait du coup vous n'avez pas la même grille de lecture. Il avait fait une intervention en disant c'est un peu bizarre de prendre une grille de lecture et de ne pas la mettre à jour, c'est-à-dire de se dire et ici c'est comment, et de l'appliquer de force en fait au forceps sur un espace qui n'est finalement pas étudié.
Ben oui, et on peut pas copier.
Ce qui veut pas dire que tout va bien en France, hein.
Non,
c'est pas
mais
tout
c'est
que,
pas du, mais c'est
pas
du
ce qu'il voulait dire, ni ce que je voulais dire.
C'est exactement ça. Il appuie aussi sur un truc, et c'est un rappel que je trouve intéressant. Il rappelle le développement technologique, en fait, qu'il y a eu entre 2004 et 2013, et il cite des chiffres, et où effectivement on se rend compte que, bah ouais, on a plus de portables, on a plus de connexions internet, et que, bah, il le dit, c'est aussi l'apparition des réseaux sociaux, dits sociaux du moins, c'est l'apparition de cette fachosphère, en fait, cette matérialisation du moins, ou cette immatérialisation de la fachosphère.
En fait, c'est surtout le fait que l'extrême droite a été beaucoup plus rapide à appréhender les outils technologiques que l'extrême gauche, et d'ailleurs la droite en général, hein, pas que l'extrême droite, et que du coup, en fait, leur parole est devenue principale, parce que comme c'était les seuls qui étaient présents, bah, ils faisaient l'actualité, quoi,
c'est
comme
ça.
On dit.
C'est ça, avec, donc effectivement, avec tous ces réseaux, c'est aussi l'amplification l'expansion des discours haineux, conspirationnistes, ethno-différentialistes. Et c'est, bah, il en vient au même point que toi, c'est que bah, effectivement, c'est absolument indéniable que, qu'effectivement, bah, bon, les contre-révolutionnaires, c'est ce qu'il les nomme comme ça, mais on peut appeler ça les réactionnaires, les,
oui, bah les contre-révolutionnaires,
fachos, les contre-révolutionnaires,
c'est bien,
mais... bah effectivement, pour l'instant, ils en ont tiré absolument profit. Ça, c'est une certitude. Et lui, ce qu'il dit aussi, c'est ce qui est plus problématique, pour lui, c'est que des progressistes, des révolutionnaires, bah, deviennent perméables à des thèses d'extrême droite, identitaires, qui défendent leur vecteur conscience sous couvert de lutte contre l'oppression pour la dignité, qui rejettent l'internationalisme, l'universalisme, qui est constamment associé au colonialisme. Et c'est vraiment intéressant parce que là aussi, il parle même de la révolution, etc. Et que, en fait, dans l'Algérie, dont les gens voulaient être indépendants, ils s'appuyaient sur la révolution de 1789, en fait.
Bien sûr.
Qui était à contre-sens de l'État colonial, en fait.
Oui, clairement.
Et c'est vraiment très, très intéressant. Il nous replonge dans de l'histoire, en fait. Et qu'aujourd'hui, on a un gros problème quand même autour de tout ça, c'est qu'on n'a plus de mémoire en fait militante, très peu en fait.
Ouais, et surtout ce qui est intéressant, enfin moi je trouve dans ce que tu décris dans son prisme, c'est qu'il n'est pas dans l'idée que entre guillemets l'indigène, parce que c'est comme ça qu'on appelait les gens qui habitaient les colonies, étaient trop cons pour comprendre une théorie politique et qu'au contraire, les gens s'en étaient emparés et que les habitants s'en étaient emparés et que les théories politiques existaient. Il faut pas faire comme si elles n'existaient pas, et que c'était juste, enfin que c'était flou quoi. Ouais. Alors que c'était très clair dans les textes et dans les choses défendues.
C'est ça, mais je pense que certaines choses comme ça nous ont échappé parce que justement il y a des points que je viens de vous citer, il y en a encore d'autres, hein, où à chaque fois il va affiner. Et justement je pense que ça va pas mal appuyer sur ce que tu disais. Il va par exemple affiner autour de cette gauche cléricale, hein, c'est intéressant ça, on en entend rarement parler en fait, des curés rouges. C'est lui qui les appelle comme ça. Je le cite, et il dit qu'il participe avec les racistes anti-musulmans, avec les institutions étatiques et les entrepreneurs identitaires à la formation d'une communauté musulmane distincte des autres composants de la société dans son organisation, ses objectifs et ses moyens d'expression politique. Et toujours cette gauche cléricale qui a tendance identitaire et qui réassigne en fait. C'est lui qui le dit comme ça, j'aime beaucoup, qui réassigne à résidence identitaire tout individu et qui a substitué la lutte des races à la lutte des classes, hein, on l'entend vraiment beaucoup en ce moment tout ça, et en vouant aux gémonies les vieux combats contre l'oppression religieuse et sans oublier celui de la séparation des églises et de l'État, hein, si on navigue un peu dans les milieux révolutionnaires, rebelles et tout ça, ah bah effectivement, hein, c'est-à-dire que la laïcité c'est un truc dégueulasse, la liberté d'expression c'est un truc bourgeois. Bon, ok.
Mais c'est intéressant parce que d'ailleurs, c'est pour faire un parallèle avec l'OLP, l'OLP était laïque au départ, beaucoup plus que ce qu'elle n'est aujourd'hui, parce que justement, il partait du principe qu'on ne pouvait pas faire un État où on oppressait une partie des gens. Et du coup, on voit aussi la dérive même de mouvements qui historiquement étaient laïques vers la religiosité,
ouais,
confessionnalisation, voilà, parce que c'est plus payant politiquement, parce que clairement c'est purement stratégique, c'est pas autre chose.
Évidemment, évidemment. Et justement, il parle aussi de l'histoire de cette gauche, hein, toujours cléricale ou qui soutient tout ça, qui à plusieurs reprises a déjà collaboré avec des réactionnaires, et je trouve que c'est hyper intéressant, parce que autant je suis moi dans des mouvements, mais j'ai pas forcément l'historique, et je parlais aussi par rapport à moi-même sur le manque d'histoire, et c'est très bien parce qu'il revient justement sur cette collaboration avec les réacs, il y a 30 ans comme aujourd'hui, et sûrement encore demain, certains trotskistes qu'on trouvait par exemple en 95, en France ou en Angleterre, hein, en 95, avec des positions comme avec l'État jamais, avec les islamistes parfois. C'était la guerre civile en Algérie pendant ce temps-là.
C'était entre 91 et 95, oui.
C'est ça. Donc ça prouve bien les trucs. Hein. Et ensuite, c'est même trotskistes, certains, attention, je ne fais pas de grands ensembles, qui ensuite sont allés à la LCR, qu'on a ensuite viré, et qu'on retrouve, à l'appel de « Nous sommes les indigènes de la République ». Donc c'est très intéressant de voir cette mouvance, en tout cas, parce que moi, je la voyais, on va dire, politiquement, mais je la voyais pas avec autant d'historique en fait, et c'est très 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 intéressant.
Ouais, disons qu'il est sociologue quoi, donc il fait une étude sociologique des mouvements politiques. Quoi.
Ouais, c'est ça, et je le suis pas.
Bah oui, non mais c'est la force d'un sociologue.
C'est ça. Et ça aussi hyper intéressant, il nous parle de la parenthèse altermondialiste, qui est très éclairante, et effectivement elle l'est beaucoup, sur la volonté de certains et certaines militantes d'établir des passerelles entre gauche et religieux. je vous prends l'exemple qui donne et qui développe encore plus hein, dans le livre. Il parle du Forum social européen où il y avait Tariq Ramadan et ses réseaux, présence musulmane, des membres du collectif des musulmans de France. Il y avait aussi participation et spiritualité musulmane. Et que là aussi, il rappelle.
Enfin, juste rappeler que ces réseaux ont tous des positions très à droite.
Très réac. Bah, bien évidemment.
Sur plein de sujets, notamment le mariage gay.
Il y en a certains qui étaient avec la manif pour tous. Ouais. Hein. Là aussi, il rappelle en fait la percée islamique, elle s'est faite en coordination avec des assos anglaises, alliées en tout cas au Socialist Worker Party. Et vraiment, il retrace toutes ces connivences. Il parle justement à ce forum social, ça a été un débat houleux, et ça franchement je crois m'en souvenir de mémoire. Et il rappelle que Tariq Ramadan avait été adoubé par un José Bové, qui était à la Confédération Paysanne à l'époque, souvenez-vous-en, et aujourd'hui il est au Parlement européen. Et de son envie, donc de ce José Bové, de trouver des partisans. Et là vraiment, il cite José Bové, qui avait envie de trouver des partisans d'une théologie de libération dans l'islam. Et alors, moi ça je ne la connaissais pas, et justement il la redétaille. Cette théologie de libération, c'est un truc qui a déjà été utilisé dans le passé
par les cathos
en Amérique du Sud et qu'en fait, on se répète. Et donc tout ça, enfin l'auteur il amène aussi les contradictions qui ont été apportées à ce moment-là, etc. Vraiment c'est toujours entre le texte qui est donné par les racialistes, par les confessionnalistes, on va les appeler comme ça, et ceux qui déjà, quelle que soit l'époque, étaient déjà en train de dire « Attendez, là on se plante de route, c'est pas bon du tout. » Donc voilà, je suis un peu loin.
C'est pas grave, mais termine quand même ta chronique.
Ok, moi, je vais quand même rappeler que je parle donc du livre « La fabrique du musulman hein. ». Et il nous parle aussi du rapprochement de certains de la LCR. Alors, c'était l'ancienne Ligue communiste révolutionnaire.
Ah, ce qui a créé le NPA après.
C'est ça. De certains indigènes, ce n'est pas moi qui oserais cette dénomination, ce sont des gens qui se dénomment pareil. D'autres gauche de la gauche avec le... et d'autres de la gauche... de la gauche de la gauche, avec le Hezbollah libanais. Un truc super sympa. Bon, 10 ans après, quand même, ils s'en sont éloignés. 10 ans, pour comprendre que... en fait, le Hezbollah est plutôt contre-révolutionnaire.
C'est un peu le problème du manque d'internationalisme, en fait. Hein. Parce que s'il suffisait de lire ce qui était écrit par des Libanais sur place pour comprendre que non, c'était pas des potes, quoi. Enfin,
c'est exactement ça, c'est ce qu'il dit hein, constamment. C'est que l'internationalisme, c'est ce que je vous ai dit avant, c'est vraiment ça le manque, en fait. Il nous rappelle aussi Dieudonné, hein, tout ça, avec toutes les merdes qu'il a pu faire et toujours des gens qui lui trouvent des excuses, encore aujourd'hui, hein, faut pas l'oublier. Alors que je pense que ses actes et ses amitiés et ses actes parlent suffisamment pour sa connerie. Donc voilà, il nous parle aussi d'une autre grande penseuse de tout ce truc dégueulasse qui est Ouria Boutelja. Il nous rappelle son parcours militant et politique, sa dérive identitaire, racialiste, homophobe, patriarcale, et tout ça est démontré. Il y a des citations antisémites, évidemment. Il n'y a qu'à voir le titre de son livre. Et tout ça est démontré, argumenté, il y a des sources, c'est pas un truc fait comme ça juste pour être méchant, hein, c'est, faut se rendre compte de ses ennemis à un moment donné. Et on se rend compte, encore une fois, que ceux qui arrivent encore à la soutenir aujourd'hui, et qui lui trouvent soit des excuses ou autre, en fait, c'est soit ils l'ont pas lu depuis longtemps, soit ils arrivent à s'accommoder des thèses les plus dégueulasses, des propos d'extrême droite. Et je pense, selon moi, si il continue de se dire révolutionnaire, je pense qu'il faudrait vous réinterroger sur votre propre définition du mot révolutionnaire. Quoi.
Clairement, moi, pour avoir lu son livre, j'arrive pas à comprendre comment on peut excuser un livre pareil. Pour être très clair, hein, j'avais lu aussi le livre de Zemmour, hein, mais simplement parce qu'il faut des fois lire ses ennemis pour comprendre ce qu'il y a derrière. Je n'ai pas vu de grande différence entre le livre de Zemmour et celui de Boutelja en termes de crasse et de racisme non assumé, mais vraiment vraiment porté comme ça. Enfin, c'est assez terrible.
C'est
quoi.
La même entreprise.
Ouais, en fait c'est un peu le même courant de pensée en réalité.
Ah mais je veux dire, enfin il le dit, je vais pas vous le dire là, mais c'est ce qu'il dit dans le livre, hein, c'est que en fait Boutelja et Soral, en fait ils ont pas le même truc, mais ils servent les mêmes choses.
C'est pas le même fonds de commerce, c'est pas les mêmes gens qui visent, voilà, mais la technique est la même. Quoi.
L'entreprise est la même.
C'est ça qui est assez dégueulasse, quoi.
C'est ça. Et pour finir quand même, il parle aussi du concept d'islamophobie. Il revient dessus en fait, de l'ambiguïté justement. Il revient sur l'ambiguïté en fait de ce mot et que cette ambiguïté a déjà été soulevée en 2003, hein, donc on peut compter, hein, c'était il y a 14 ans. Et il rappelle aussi que 2003, c'était l'époque où un certain Sarkozy, sous l'impulsion d'un chevènement, a créé le Conseil français du culte musulman, hein, parce qu'il faut formater toutes ces communautés, il faut les former. Hein. Et il rappelle en fait encore une fois que cette ambiguïté en fait qu'il y a derrière l'islamophobie et qui est, attention, dans les textes de certaines associations qui se battent contre ce truc-là, et où il y a l'ambiguïté entre la critique d'individus et celle d'institutions. Et que, c'est ce qu'il dit, et je le rejoins totalement, c'est hyper liberticide en fait, parce que en fait c'est nier le droit à la critique de l'islam en fait.
C'est
et
ça.
Que ça, bah, c'est pas possible.
Et c'est parce que le mot est en construction, mais certains essayent de le détourner de ce qui pourrait être quelque chose de positif au départ, de dire il ne faut pas s'attaquer aux musulmans en tant que croyants, parce que voilà, pour des raisons simples, comme on s'attaque pas à n'importe qui, voilà.
Oui.
Et d'autres qui disent bah non, il ne faut pas s'attaquer à la religion musulmane, ce qui est pas du tout la même chose. Et là, par contre, quand on crée ce truc là, bah en fait, on revient en fait pour pour être clair, on revient des dizaines, des centaines d'années en arrière.
C'est
en fait.
Ça, ouais. C'est ça. Et il nous parle aussi du CCIF, hein, que d'autres ont déjà défendu, même sur les ondes les plus rebelles. Du CRI aussi, dont le président était cofondateur en 87 d'un groupe islamiste sur Lyon, de jeunes musulmans. Et en 89, il manifestait contre Salman Rushdie. C'est cool, hein. Voilà. Il relie donc aussi la dynamique.
Le vrai problème, c'est qu'il ne l'a jamais renié. Parce que moi, je dis toujours, on peut se planter dans la vie.
Ah oui, mais
il faut le dire. Mais
non,
il l'a jamais renié.
Le mec, il continue dans sa vie.
Et là, c'est un peu là le problème.
Le mec,
en fait,
il continue dans son truc. Il relie donc aussi la dynamique pour la reconnaissance de l'islamophobie qui ne saurait être découplée. Et ça, c'est très intéressant, ce qui refait de l'internationalisme. Des actions déployées sur le plan international, justement, par l'organisation de la conférence islamique. Et donc, c'est encore une fois là très intéressant parce qu'il remet des textes, fondateurs de ces choses-là. Et il y a des groupes qui s'affilient à ça.
On va rappeler que la conférence islamique, c'est 55 pays, ouais, qui font notamment une énorme pression auprès de l'ONU pour que le blasphème soit reconnu comme étant quelque chose d'interdit au niveau mondial.
C'est exactement ça.
Et aux côtés du Vatican et aux côtés de des hindouistes, voilà.
C'est ça.
Pas tout seul à faire la pression.
Non, pas déconner. Malgré ces ambiguïtés, en fait, lui se demande comment des anards, et je me le demande aussi, comment des anards et des libertaires qui se reconnaissent théoriquement dans le ni Dieu ni maître, arrivent à propager un terme comme islamophobie. Et lui, il utilise, comme moi je peux l'utiliser, le racisme anti-musulman. Donc je trouve très intéressant tout ça. Et il aborde aussi les positions des membres du collectif tels que libertaires et sans concession contre l'islamophobie. Qui a des positions plus que problématiques quand on se dit libertaire et révolutionnaire, quoi. Donc voilà, moi je vais finir là parce que j'ai fait très long, je suis désolé.
C'est pas grave.
Mais je pense que vraiment ce livre est vraiment en vaut le coup. Donc encore une fois, l'enfermement identitaire, et ça j'en suis persuadé, et ce livre me réconforte dans ces choses-là. L'enfermement identitaire, la collaboration avec des groupes, des partis, des collectifs identitaires, ethno-différentialistes, œil ou confessionnel, ils peuvent jamais, jamais, jamais offrir de perspective émancipatrice. C'est impossible. Et il rappelle, et je peux que être d'accord avec, c'est que les premiers à subir en fait toutes ces pressions identitaires, ce sont les athées, les libres penseurs, les agnostiques, tous ceux qui essaient juste d'être libres et d'être en fait ce qu'ils sont, eux, des individus. Et donc voilà, enfin, ce livre, il est juste magnifique. Et que, il force obligatoirement à s'interroger sur toutes ces positions que certains anti-autoritaires,
et
sur nos positions évidemment, sur que certains qui s'appellent anti-autoritaires ou progressistes voire révolutionnaires, les trucs qu'ils peuvent faire, c'est pas bon du tout. Et voilà, moi, je reste quand même avec ces trucs-là, et je me demande comment on arrive à être incapable en fait d'articuler toutes les luttes contre toutes les dominations en fait. Comme si on ne pouvait pas lutter contre le racisme tout en luttant contre le patriarcat.
Contre la religion.
C'est ça. Il y a quelque chose. On tombe vraiment dans une simplification de nos cerveaux, en fait.
C'est ce qu'il dit, hein, 140 caractères.
Voilà. Donc, je vous rappelle le livre La fabrique du musulman. C'est un essai sur la confessionnalisation et la racialisation de la question sociale. C'est le livre de Nejib Sidi Moussa, c'est aux éditions Libertalia, et ça coûte 8 balles en format poche. Courez vous l'acheter, partagez-le.
Ou faites-le acheter à vos médiathèques.
Grave, c'est un super beau livre. Et on passe à la zik ? Allez. I love, I love. Et vous êtes de retour dans la causerie sur Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et on vient de s'écouter. Ouais, vous avez eu peur, mais c'était pour pas perdre trop de temps. Et on vient de s'écouter Crystal Castles avec le titre Fleece. Pardon. Voilà. On s'en fout du titre, ça déchire.
Nouvel album, très bon, avec une
mais
nouvelle
grave.
Chanteuse.
Et Fab, tu vas nous parler. Oh, je peux donner le titre.
Ouais, vas-y.
Fab, il veut nous parler du Le sperme, c'est bon pour tout.
Ouais, je voulais vous parler de ça ce soir parce que franchement, moi, je commence à trop kiffer les réseaux sociaux et je kiffe les discussions de café dans ma boîte, vous savez, la machine à café. Et j'adore les conversations entre amis, tout ça, parce que ça devient vraiment trop, trop cool parce qu'on apprend que, eh ben, le sperme, c'est bon pour tout. Alors, le sperme, c'est bon pour la peau, surtout en facial, hein, d'ailleurs. Ouais. Le sperme, c'est bon quand on l'avale pour l'apport en protéines et en vitamines. Hein. Le sperme, c'est bon contre l'hypertension, le cholestérol, la fatigue, l'eczéma. Et le sperme, une fois par jour, avalé, bien évidemment, soignerait de la dépression, etc., etc., etc. Bon, on arrête les conneries, parce que là, on va revenir un petit peu en arrière. Alors d'abord, ça c'est de la pseudo-science au service de l'homme, le vrai, hein, ouais, d'accord ?
Le mâle.
En fait, d'où ça sort ? Ça sort de ce qu'on appelle la pseudo-science, c'est-à-dire c'est des études pseudo-scientifiques débiles qui n'ont aucun fondement de base, voilà, qui en fait reposent soit sur une étude bidon, soit carrément sur aucune étude, ou c'est un gars qui dit bah oui. Alors par exemple, ça, des fois ça marche à l'esbrouf, du genre, comme le sperme comprend des vitamines, c'est forcément bon de l'avaler. Voilà. Alors je vais juste rappeler qu'avec ce raisonnement, la ciguë contient énormément de très bonnes vitamines. Par contre, si vous l'avalez, vous mourrez. La ciguë, c'est mortel.
D'accord.
Donc voilà, c'est un exemple juste voilà. Mais j'ai lu ça, donc que l'étude reposait sur le fait que comme on avait trouvé des vitamines, c'était forcément bon. Alors donc c'est des pseudo-études et il y en a plein qui sont, c'est les mêmes qui affirment des conneries du genre un verre de bière vaut une heure de sport. Voilà. D'accord. Ou un verre de vin sauve du cancer. Vous voyez, c'est le genre d'étude à la con qui ne repose sur rien. Et en fait, c'est des affirmations qui sont faites avant tout généralement par des lobbying. Pour du lobbying et par des lobbies, soit pour vendre la bière, soit pour vendre du vin. Et là, on se dit, mais alors, quel rapport avec le sperme?
C'était ce que j'allais me dire.
C'est que le plus fort et le plus puissant des lobbying mondial est derrière ce genre d'études. On l'appelle tout simplement le patriarcat et le machisme. Et oui, parce que il faut pas déconner, c'est tout simplement pour nous vendre une bonne vieille habitude qui est celle que les mecs doivent pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et c'est exactement à ça que servent ces petits trucs partagés sur les réseaux sociaux, dans les conversations entre amis et tout. Alors, on va pas se mentir, c'est toujours la même rengaine. Ce sont ces messieurs qui ont besoin d'imposer leur code, et si possible, les codes du porno. Parce que c'est exactement ça, je reviens sur ce que je disais, la faciale, la vallée, tout ça, tout ça. Alors, on va le dire très très bien, très clairement. On fait ce qu'on veut au pieux, si vous aimez faire ça, c'est pas un souci, je suis en train de porter un jugement de valeur. Par contre, c'est à quoi ça sert d'avoir ce genre de truc qui arrive régulièrement. Alors la faciale par exemple, elle sort d'où ? Elle sort de nos bons vieux pornos majoritaires où toutes les saillies se terminent par une éjaculation faciale sur sa partenaire, parce que on parle bien sûr du porno hétérosexuel en majorité ça se fait aussi dans le porno homo.
Oui,
mais c'est pas ça que je veux, c'est que dans ces études-là, on ne parle que d'hétérosexualité. C'est ça qui est important. Donc je suppose que ce sont des gens qui regardent que du porno hétéro. Ces petits articles, ils donnent des clés pour briser le consentement en réalité. Oui, parce que c'est ça qui est le plus grave. Sur le coup, ils sont écrits de façon comique, tout ça, une forme légère, tout va bien, c'est un peu badin, comme on dit, une forme badine. Qu'est-ce que c'est drôle, et tout. Sauf qu'en fait, ils sont extrêmement partagés, commentés en masse. Et surtout, quand on lit les commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, on a de quoi flipper parce qu'on se rend compte que les gens les prennent au premier degré. Donc, c'est-à-dire que le but de l'article, lui, il est atteint. Et là, on va juste vous plonger dans une situation. Alors, imaginons un couple hétérosexuel, parce que je vous rappelle que cet article s'adresse avant tout aux hétérosexuels, qui se lance dans une partie de jambes en l'air, tout se passe pas trop mal, quand d'un coup, monsieur demande à madame d'avaler. Et là, elle refuse. Et à l'issue de ce moment, comment ne pas imaginer que la discussion à la machine à café ou la lecture de l'article sur Facebook ne revienne pas dans la tête de monsieur et n'entraîne pas la fameuse « mes chéris ». Tu sais, j'ai lu, c'est scientifiquement prouvé que le sperme est bon pour le cholestérol, la dépression, la peau, tout ça. Et puis pour forcer un petit peu pour que la prochaine fois, madame accepte enfin le précieux nectar de monsieur qui, a priori, sauve des vies. Voyez, c'est ça en fait le bris du consentement. Il va se situer là, c'est-à-dire que des gens ne pratiquent pas certaines pratiques sexuelles et c'est tout à fait honorable, mais eh ben on va inonder de la toile d'articles qui sont orientés de façon purement, on va dire, hétéro et purement machiste, pour bah, donner des petits trucs pour pouvoir briser le consentement la future fois. Il existe exactement la même chose sur la sodomie, hein, d'ailleurs, au passage.
Ah, oui.
Hein, voilà, ou la double pénétration qui serait, et c'est véridique, hein, je l'ai lu, la double pénétration serait bonne pour l'étirement des lombaires. Donc voilà, vous voyez, et oui, on en est là quand même. Hein. Donc c'est assez étonnant de remarquer quand même que dans ces articles, le sperme, il est bon pour tout. Mais uniquement pour les femmes, a priori, hein, parce que c'est toujours pour les dames. Alors, c'est drôle parce qu'il semble que ces grands scientifiques, hein, qui ont écrit ces articles, nous démontrent donc que la génétique aurait une tendance à rendre le sperme bon pour les dames et pas vraiment pour les messieurs. C'est étonnant parce que moi, par exemple, le Doliprane, ça marchait les deux, hein, et là, non, ça, voilà. Donc, en fait, c'est une vraie fumisterie parce qu'on sait bien que c'est de la connerie et qu'en réalité, c'est juste une manœuvre purement phallocratique et machiste qui est derrière tout ça pour dire « Eh ben, connasse, tu vas avaler. » Je le dis comme je le pense que c'est rédigé. Et je vais le dire clairement, après tout, messieurs, si le sperme est aussi bénéfique, n'oubliez pas que vous pouvez faire de l'autoproduction totale, directement du producteur au consommateur.
Quelle indépendance !
Ben oui ! Et pourquoi ne pas le faire alors qu'il est si bénéfique ? Hein ? Pourquoi tuer des forêts complètes en mouchoir en papier, après tout ? Moi, je trouve vraiment qu'à un moment donné, il faut se poser des vraies questions et des questions de fond. Alors, on voit bien, encore une fois, derrière ces petits trucs soi-disant amusants et anodins, se cache une volonté très claire d'imposer un mode de sexualité et un mode de sexualité machiste et patriarcal. Ces articles qui sont pondus à la chaîne par des boîtes à clics qui sont souvent financées elles-mêmes par des sociétés issues du porno. Ben oui. Notamment YouPorn qui finance énormément de ces micro-start-up qui créent des articles bidons comme ça. Alors c'est très drôle parce que au début j'arrivais pas moi à retrouver d'où venaient les articles, vous savez on peut cliquer et puis quand vous cliquez vous arrivez sur une autre boîte et ainsi de suite. Et en fait il y a un article d'une anglaise qui a fait un petit peu pour le alors non, je me rappelle plus du j'ai pas noté le journal pour un journal anglais pardon j'ai pas le truc qui a fait une étude en fait et qui a découvert en fait que c'était des boîtes majoritairement financées par l'industrie du porno et notamment par Hugh Hefner Playboy, tout ça.
Ah ouais.
Voilà. Donc clairement, c'est pas anodin, c'est pas involontaire et c'est bien une forme de lobbying. Vous voyez, l'imagine pas, mais on est bien là-dessus. Donc on a toujours les mêmes ingrédients, de la fausse science combinée à une envie de domination. Voilà. C'est un petit peu comme ceux qui essayent de nous faire croire que la Terre est plate. Eh ben, moi je voulais en parler parce que je vois ces trucs qui commencent à passer énormément sur les réseaux sociaux. Puis surtout, jusqu'à maintenant, c'était que sur les réseaux sociaux, donc c'est ça me paraissait anodin, je le dis franchement, puis finalement en creusant un peu, je me dis que non. Mais c'est surtout que maintenant je les entends à la machine à café, dans les conversations entre amis, vous savez, des fois on commence à rigoler à table et puis on dit « Ah ben tu sais quoi, le sperme c'est super bon contre la dépression, si t'avales tous les jours. » Et en fait, eh ben, c'est pas anodin en réalité, et encore une fois, c'est un climat. Et ça installe quelque chose d'assez problématique. Donc voilà, bon, j'avais envie de vous parler ça ce soir, de vous dire d'arrêter de partager ces conneries, d'arrêter d'en parler, puis quand quelqu'un en parle en face de vous, de lui dire juste un truc, tu peux me donner l'étude et le lien avec l'étude réelle qui prouve ça, parce que moi ça m'intéresse. Et vous verrez qu'en fait, les gens n'ont aucune source pour ces conneries.
Ou alors, si vous êtes un petit peu plus colioté, vous pouvez dire à la personne qui vous le propose de l'accompagner dans un toilette et de le voir manger son propre sperme ou se faire une éjac faciale pour voir, parce que si ça marche.
Mais c'est
pour
super
les femmes,
bon pour la peau, ils ont dit.
C'est lui-même en fait.
Bah oui, mais c'est ça le truc. Et voilà. Et honnêtement, il y a beaucoup de féministes qui commencent à s'emparer de ces sujets-là en disant attention, parce qu'en fait, c'est pas juste de la blague. Et clairement, ce n'est pas juste de la blague. C'est pas parce que c'est écrit avec humour que c'est drôle. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a un magazine qui s'appelle Bret Hart, qui est un magazine d'extrême droite américaine, dont l'ancien directeur et conseiller de Donald Trump aujourd'hui, qui écrivait toujours ses articles au second degré. Enfin, un pseudo second degré, toujours marrant avec plein de gifs, je sais pas comment on dit, de trucs comme ça. Et en fait, bah voilà, c'est exactement la même sauce, hein, c'est-à-dire c'est l'idée de mettre quelque chose soi-disant fun, mais en fait pour passer une idée qui l'est pas tant que ça.
C'est ça.
Voilà.
Eh bien.
C'était ma chronique de ce soir et mon coup de gueule de ce soir.
Eh bien, très bien.
Voilà. Mais le sperme, ça peut être très bien si vous aimez.
Ah, mais oui, oui.
Chacun fait ce qu'il veut.
Oui, mais ça doit pas être.
Mais ça ne doit pas permettre.
Ça doit pas être une position de il faut que tu le fasses parce
voilà,
que.
Voilà, exactement.
Non, c'est tu le fais si t'as envie, si t'as pas envie, t'as pas envie.
Encore
en fait.
Une fois, le problème, c'est le consentement.
C'est ça.
C'est toujours le même truc.
C'est
et
ça.
Je rappelle que non, c'est non, et quand on dit rien, c'est non aussi.
Oui.
On se rappelle bien ça.
Oui, ça veut dire oui.
Voilà.
C'est tout.
Un peu de musique ?
Allons-y.
C'est parti.
Et c'était Elle de Mary Boyne, remixée par Mongolian Jet Set. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu.
Et c'est la
causerie.
Oh, c'était bien. J'adore Mary Boyne. Merci de nous avoir fait découvrir dans l'émission.
Ouais, de rien.
C'est vraiment très bien. Continuons donc sur les bonnes nouvelles. Parce que là, c'est une bonne nouvelle.
Mais oui, j'ai envie de dire Alléluia.
Ah non, je déconne. Non.
Non, j'ai envie de dire youpi.
Qu'est-ce qu'on va faire de toi?
C'est mieux dans youpi.
C'est mieux.
Parce que c'est la fin du délit de blasphème en Alsace-Moselle.
Ouais.
C'est pas rien, bordel. Et ça s'est passé le 27 janvier 2017. Alors, c'était dans la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté.
Il n'y avait pas que du bon, mais au moins, il y avait ça.
Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas clairement que du bon. Et donc, eh ben, c'est fini. On a le droit de blasphémer, quoi, en Alsace.
En Alsace-Moselle.
En Alsace-Moselle.
On avait le droit partout
ouais,
ailleurs.
Ouais, partout ailleurs, mais ouais.
Enfin, sauf Mayotte.
Oui, c'est ça.
Qu'il faudra un jour aussi l'enlever à Mayotte.
C'est ça. Et alors, quand même, je voulais rappeler qu'en fait, que les textes que la loi abroge ou modifie de manière importante, en fait, il s'agit d'articles du code pénal local d'Alsace et de Moselle qui sont hérités du code pénal de l'Empire d'Allemagne. Parce que l'Empire d'Allemagne y avait annexé l'Alsace et la Moselle.
Entre 1870 et 1918.
C'est ça. Et juste parce que on pourra plus des gens ne pourront plus s'appuyer dessus pour punir des gens.
Tenter de punir,
je résiste pas à l'envie quand même de vous lire cet article qui a été abrogé. C'était donc l'article 166 qui disait donc: celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants, ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la confédération est reconnu comme corporation ou les institutions ou cérémonies de ces cultes, ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux, sera puni d'emprisonnement de 3 ans ou plus.
Rien que ça.
Et ça me fait penser au Pussy Riot.
Ben oui, c'est ça.
Par exemple,
c'est exactement...
qui en Russie ont été punis parce que elles se sont permis de chanter une chanson punk dans une église.
Par exemple, ouais.
Et t'as pas le droit.
Ouais, ou aux dessinateurs turcs qui sont aujourd'hui en prison, ou aux dessinateurs libanais, ou voilà, tous les pays où le délit de blasphème. Et dans la loi, je vous rappelle qu'en Allemagne aussi, certains caricaturistes et certains chansonniers, comme on dit en France, ont eu quelques problèmes avec la justice parce qu'ils se sont permis de faire des petites blagounettes sur la religion protestante.
C'est ça.
Ils cherchaient pas bien, c'est pareil, pas d'après eux. Pas moi, je trouve ça terrible qu'on aille en tôle pour ça. Mais...
Et alors ça, je voulais quand même rajouter, c'est que ça faisait longtemps que personne n'avait été condamné, en fait,
oui, parce
par cette loi.
Alors, il y avait ce qu'on appelle une surveillance de l'État, c'est-à-dire que même s'il y a une loi locale, il y avait quand même un petit peu l'ordre de la magistrature qui, bon, rappelait qu'il fallait un peu freiner des cas de fer sur le fait qu'en Alsace-Moselle, on n'avait pas le droit de blasphémer.
C'est ça.
Par contre, on peut rappeler que des associations comme la Griffe,
c'est ça.
Alors, pas du tout la librairie lyonnaise.
Non, hein. Non, clairement pas.
La Griffe, c'est une association
intégriste
catho, aussi une des associations d'intégristes musulmanes et des associations intégristes juives, d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi des assos issus de l'orthodoxie juive, avaient tenté de porter plainte contre plusieurs journaux, alors que ce soit Charlie Hebdo ou Le Monde ou Libération, pour des articles qu'ils jugeaient blasphématoires, notamment quand Libération avait publié, alors je crois que pour les orthodoxes juifs, c'est quand ils avaient publié une tribune d'une rabbin ou d'une rabbine, je sais pas comment on dit, ils avaient trouvé que c'était inadmissible parce que les femmes ne pouvaient pas être rabbins, machin, et que c'était donc un acte de blasphème. Ils avaient tenté de porter plainte en Alsace-Moselle.
Voilà,
on voit un petit peu à quoi ça pouvait servir, le blasphème.
C'est ça, et je trouve que ça rejoint aussi le livre dont je vous parlais avant.
Tout à fait.
C'est-à-dire que quand on autorise ou quand on va vers le sens de légiférer sur le blasphème, c'est-à-dire de vouloir l'interdire ou de dire attention, on n'a plus le droit de critiquer une seule religion, eh ben on le voit, on ne peut pas aller vers l'émancipation, ça ne peut qu'aller vers la réaction et le conservatisme.
Alors on va donner un exemple très concret, parce que comme ça ça permet aux gens de comprendre, je pense, puis moi je l'ai en tête, donc je vais vous le donner. C'est par exemple, si vous c'était ce qui s'est passé en Allemagne pour un chansonnier allemand, si vous rappelez par exemple que dans l'Ancien Testament, qui est à la base de la culture protestante, il est écrit que vous pouvez avoir des esclaves et que, en fait, du coup, en déconnant, il avait dit « mais en fait, c'est pour ça qu'ils veulent reprendre le pouvoir en Allemagne, c'est pour pouvoir remettre en place l'esclavage », il avait été attaqué pour blasphème. Alors attention, pas parce qu'il avait dit quelque chose de faux, parce que c'était drôle, mais parce qu'il avait osé réinterpréter les textes et se servir du texte fondamental, comme ils disent là-bas, et alors qu'il n'était pas lui-même habilité à le faire, c'est-à-dire qu'il n'était pas, comment on appelle ça, pasteur. Mmh. Et que donc, du coup, ils estimaient qu'il n'avait pas à lire la Bible, en gros, devant, voilà. Et là, je repensais au spectacle de Jérémy Ferrari, qui a été Alléluia Bordel, qui a été fait en France, et je me dis, mais alors, dans un pays où le blasphème existe, et en fait, son spectacle, il n'a pas le droit de le faire, parce qu'il lit les trois livres saints, trois religions monothéliques. Et donc, il a juste été emmerdé, cet humoriste allemand, juste parce qu'il avait lu le texte saint. C'était même pas pour ce qu'il avait dit, c'était parce qu'il le fait qu'il avait lu le texte saint.
Oui, pour le dénigrer.
Oui, alors je vous rassure, il a été acquitté, mais en appel.
C'est ça, non ?
Il avait été condamné à 300 euros d'amende au départ.
Et donc voilà, c'est un petit fait, hein, on dira, mais c'est pas si petit que ça, c'est pas si anodin que ça, même si.
Il ne peut pas y avoir d'émancipation réelle dans un pays qui reconnaît le blasphème.
Bah ça, c'est, oui, j'en suis persuadé.
Clairement, pour moi.
Bah
pour
oui,
plein de gens.
Ça veut dire d'un coup qu'il y a une institution, des institutions qui sont hors de toute critique.
Intouchables.
Eh ben non, tout est critiquable et tout doit être critiqué.
Oui. Difficile d'abattre le pouvoir quand on ne peut pas le critiquer.
C'est ça.
Voilà.
Mais vachement anti-autoritaire. qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que...
On se met un petit morceau
allez,
et puis on revient pour les brèves après.
Eh ben allez, on fait ça alors.
Oh,
Et vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie sur Radio Canu à Lyon au 102.2 et sur radiocanu.org partout ailleurs. On vient de s'écouter Zone avec le titre Hardlicore.
C'était vachement bien.
Ouais, nouvel album aussi. Et...
très bon.
Ouais, différent des autres, un peu moins fragile, je trouve, moins cristallin, mais.
Il essaye d'autres trucs.
Mais ouais, c'est voilà. Avant les brefs, t'avais un truc.
Oui, je voulais juste te dire qu'on avait une belle démonstration de ce que pouvait être le foutage de gueule de l'État aujourd'hui, parce qu'on a un jeune homme qui a été arrêté à Aulnay-sous-Bois et qui souffrait d'une fissure anale de 10 cm suite à l'introduction malencontreuse, d'après les forces de l'ordre, d'une matraque à l'intérieur de son fondement. Et ça, c'est juste hallucinant, parce qu'en fait, normalement, c'est un viol en réunion, et la justice vient de décider que c'était un acte involontaire. Donc moi, je sais toujours pas comment on peut rentrer une matraque involontairement dans l'anus de quelqu'un, mais voilà, je voulais juste soutenir ce jeune homme déjà qui a 60 jours d'ITT, et je pense que La Causerie soutient, hein, pas que
oui,
moi.
Oui, oui, oui.
Et aussi, dire que oui, ça crée des émeutes, mais quand on se fout de la gueule du monde, faut pas s'attendre à autre chose. Voilà.
Évidemment. On va continuer avec des brèves. Enfin, on va continuer et terminer avec des brèves. Et Fab, c'est toi qui annonce la première.
Oui, alors, toujours pareil, la permanence juridique d'aide aux sans-papiers, tous les lundis à 18h30. Donc là, c'est lundi à 18h30 à la Lutine, 91 rue Montesquieu, dans le 7e. Et ça, c'est donc lundi.
Ouais. Rendez-vous suivant, c'est jeudi 9 février. C'est une soirée de rencontre et de soutien aux réfugiés LGBTI à Lyon, au centre LGBTI de Lyon, qui est au 19 rue des Capucins, dans le 1er arrondissement. Alors c'est à partir de 18h30, l'accueil. C'est organisé par le collectif Lesbien Lyonnais, avec le groupe The Big Tape. Donc l'accueil, ça se fait à partir de 18h30, 19h30, on continue par la projection d'un documentaire, Les Portes d'Arcadie. C'est un documentaire de Carole Grand. Je vous lis vite fait le truc. Allez. Dans les petits bureaux prêtés par la mairie du 10e arrondissement de Paris à l'association Ardis, bénévoles et demandeurs d'asile se retrouvent pour faire émerger une parole balbutiante et personnelle. Le seul moyen de prouver que l'on est bien homosexuel et persécuté pour cette raison afin d'obtenir l'asile en France, c'est de convaincre par le récit de son expérience intime. Mais réussir à mettre les bons mots sur ce que l'on a vécu et persuader de l'authenticité de son histoire n'est pas simple. Soir après soir, ces paroles sont accouchées pour reconstituer des histoires de vie et d'amour qui seront confrontées à l'administration française. Donc après ce documentaire d'une heure, à partir de 20h30, ces discussions et apéro convivial, ces discussions autour du doc et ceux-ci rencontrent avec des LGBT réfugiés. Voilà.
Et le même soir, il faudra choisir, vous avez Dissection des communistes, rencontre à la librairie Terre des Livres avec deux historiens.
Donc, mais genre Dissection, vraiment ?
Ah ouais, non mais... la librairie Terre des Livres, c'est 86 rue de Marseille, dans le 7e. Donc c'est Michel Christian, auteur de Camarades ou Apparatchik, les communistes en RDA et en Tchécoslovaquie, 1945-1989. Et Paul Boulan, auteur de Des vies en rouge, militant, cadre et dirigeant du PCF, voilà, qui vont mener une soirée. Alors, les partis communistes à l'Est comme à l'Ouest ont eu une place essentielle dans l'histoire du XXe siècle. Pourtant, les membres et les militants des partis communistes sont restés le plus souvent des inconnus. Qui étaient ces hommes et ces femmes qui avaient choisi de rejoindre les rangs du parti? Deux historiens, l'un pour le PCF et l'autre pour le PC de RDA et de Tchécoslovaquie, ont entrepris de répondre à cette question en utilisant des nombreuses sources internes telles que les questionnaires biographiques. Cette soirée est l'occasion pour les auteurs de présenter les résultats obtenus et de comparer la situation des membres d'un parti communiste à l'Est et à l'Ouest.
D'accord.
Voilà. Et donc c'est à partir, j'ai oublié de le dire, de 19h.
Ok. Rendez-vous suivant, c'est vendredi 10 février. C'est un rassemblement de soutien aux délinquants solidaires. Ça sera place des terreaux à partir de 19h. Parce que ce vendredi 10 février a lieu la délibération pour le procès de Cédric Héroux, criminalisé pour avoir tendu la main à des personnes en détresse. Solidaire avec les migrants, migrantes, qui après avoir franchi des obstacles imposés par la peur, la haine et des calculs politiques, arrivent dans notre pays. Solidaire avec celles et ceux qui les accueillent, leur apportent couverture, nourriture, boissons chaudes, vêtements, tentes, secours médical, assistance juridique, chaleur et amitié. Donc voilà pour ce rassemblement.
Et c'est à l'appel de l'ENS en lutte.
D'accord.
Voilà. Et le samedi 11 février, c'est le Forum Gay et Lesbien qui fête ses 20 ans. Et oui, pas tout jeune, hein. Et voilà, et c'est à partir de 18h30, donc c'est une soirée conviviale pour fêter les 20 ans du Forum Gay et Lesbien. Et c'est au 19 rue des Capucins, dans le premier, voilà, donc venez.
Et le rendez-vous suivant, eh ben, c'est la semaine prochaine, pour écouter la causerie. Parce que dans la causerie, la semaine prochaine, nous recevrons donc Shams France, qui a ouvert une antenne sur Lyon. Alors, pour expliquer qui est l'asso Shams, c'est l'association des LGBTQI, des personnes maghrébines ou d'origine maghrébine, de Moyen-Orient, Moyen-Oriental, vivant en France. Shams France écoute, oriente, accompagne et soutient. Et c'est né de la volonté d'aider les LGBTIQ maghrébins et moyen-orientaux qu'ils vivent en France ou dans leur pays. Et cette aide passe par de l'accueil, de l'écoute et de l'orientation, notamment pour les réfugiés. Shams France, c'est aussi un relais en matière de prévention VIH et IST. C'est aussi, en tout cas, Shams alerte et sensibilise les autorités françaises et européennes sur la situation des LGBTIQ dans la zone MENA et lutte pour la dépénalisation de l'homosexualité dans ces pays. Et Shams France, encore une fois, réunit et anime cette communauté grâce à une coopération étroite, avec les assos LGBTIQ françaises.
Voilà, c'est un vrai plaisir de les recevoir.
Ouais. Sortir des grands ensembles et laisser place aux individus, un peu.
Ouais, toujours.
Eh ouais.
Donc, du coup, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec notre invité, ou nos invités.
Nos invités.
Je ne sais pas s'ils seront un ou deux, donc vous verrez. C'est ça. Comme nous. Voilà.
Donc, rendez-vous la semaine prochaine à partir de 22h.
Bah oui, sur Radio Canu, au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et on va terminer l'émission en se quittant en musique avec un titre de Within Temptation. Oui. Oui, c'est du métal symphonique. Oui. Et ça s'appelle Murderer. Voilà. Et bonne semaine à tous, bon courage. Et à ceux qui sont en lutte, courage et continuez.
C'est ça. Et puis à la semaine prochaine. Ciao.
Salut.
Bon courage.
Ciao. Down.